Bonjour à tous et bienvenue sur Eastasia.fr pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique pour une émission spéciale, puisqu'on ne va pas vous parler du tout de cinéma asiatique, voire un petit peu chinois, on va vous expliquer pourquoi, mais on va vous parler de cinéma américain pour cette émission. Alors je vous rassure, on va rester au Japon, puisque c'est la sortie de Ghost in the Shell, couplée à celle de Power Rangers, et les annonces concrètes d'adaptation de manga, avec la bande-annonce de Death Note qui est tombée, qui nous a donné envie de revenir sur la manière dont Hollywood gère la culture japonaise. Ce sont des questions qu'on va se poser dans une seconde partie, après une première partie consacrée à Ghost in the Shell. Mais en introduction, j'aimerais revenir sur les origines de la saga avec un premier tour de table où je vais vous demander ce que représente la franchise pour vous. Alors, on a des invités pour cette émission. Bonjour Fabien.
Et bonsoir.
Alors, tu es donc rédacteur à l'Écran Fantastique et tu es le chroniqueur de Tokuscope. Est-ce que tu peux nous parler en introduction de cette émission que tu diriges?
Alors, effectivement, oui, je gère la rubrique Cinéasie sur l'Écran Fantastique. Et Tokuscope, en fait, c'est une émission, donc une web émission qu'on a créée en 2013 avec mon pote Jordan Guichot. Et en fait, on parle de tout ce qui est relatif à la culture des effets spéciaux au Japon. Donc, ça peut aller de Godzilla en passant par les séries de Super Sentai ou tout ce qui est la culture tokusatsu, culture des effets spéciaux. Et puis ça permet aussi des fois d'être un peu plus transversal, d'aborder justement Power Rangers ou les films américains comme le Godzilla de Gareth Edwards ou Pacific Rim. Donc c'est tout ce qui est relatif aux effets spéciaux au Japon et ce qui en découle. Voilà.
Alors on va avoir ton éclairage pointu sur Power Rangers tout à l'heure dans la deuxième partie. Et on va commencer donc ce premier tour de table. Donc Fabien, comment est-ce que toi t'as découvert Ghost in the Shell et qu'est-ce que la saga représente pour toi?
Alors rapidement, en fait, moi j'étais déjà fan de Pat Labore et j'avais découvert les deux films de Oshii autour de 95-96. Et à l'époque, Ghost in the Shell, j'avais surtout entendu parler par les affiches du film. Et vu que j'étais un fan de James Cameron, Cameron avait fait la pub du film à l'époque, et d'ailleurs c'était un des arguments de vente du film en France, on n'a jamais vu ça et tout ça. Et du coup, moi j'ai vu le film sorti en France en 97, je crois, il me semble bien, et je l'ai vu en 98, c'était passé sur Canal à l'époque, et j'avais pris le film à moitié en fait. Donc du coup, j'étais un peu parachuté dans l'univers sans trop comprendre un peu ce qui se passait. Bon, je l'ai revu peu de temps après, et c'est vrai que c'est devenu un petit peu un de ces films que tu vois quand t'es ado et qui provoque des sensations un petit peu diverses. Il y a l'aspect un peu sexuel parce que le personnage de la fille est vraiment sexualisé dans le film et en même temps pas du tout. Et il y a l'aspect cyberpunk. C'était un film qui a annoncé ce qu'on allait avoir après, un film comme Matrix et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait, je crois que c'est un des premiers films, je dirais, atmosphériques japonais que j'ai vu, que ce soit live ou animé. Et je pense que comme beaucoup de gens, ça a marqué les consciences, en fait. En tout cas, moi, le film m'avait vraiment marqué à l'époque. Je ne dis pas que je le vois régulièrement depuis, mais c'est un film qui exerce toujours cette force de fascination immense. Et je me dis, c'est vraiment le cas typique où on a un réalisateur qui s'accapare une œuvre préexistante, et qui en fait son œuvre à lui, en fait.
Tu l'as revu, après la sortie du film de Robert Sanders, ou pas du tout?
Non, parce que je l'avais suffisamment en tête. C'est un film que je dois peut-être revoir tous les 3-4 ans. À chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Et je l'avais suffisamment en tête pour ne pas avoir à le revoir après. Mais par contre, j'aimerais bien le revoir en Blu-ray maintenant, effectivement.
Donc, il est disponible chez Atanimé depuis quelques semaines. Donc, vous pouvez le retrouver en Blu-ray. C'est une bonne occasion de le répéter. Bonjour, Alex.
Bonjour.
Donc, tu es le rédacteur en chef de Cinéasie.
Exactement.
Nos auditeurs te connaissent bien, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix par ici.
C'est vrai, j'étais un peu très occupé.
Alors pour toi, Ghost in the Shell, comment est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce que ça représente pour toi?
Alors je l'ai découvert il y a très très longtemps, pareil dans la fin des années 90. Ça fait partie avec Akira en fait des premiers films animés japonais que j'ai vus. Même si comme beaucoup ici j'ai été nourri au Club Dorothée et à tout ça, mais c'est vrai que ça a été c'est un peu spécial parce qu'au final, la première fois que j'ai vu, j'ai pas tout compris, pour être très honnête. Il y a plein de choses que je comprenais pas, et c'est vrai que je l'ai revu il y a pas très longtemps, et on se rend compte à quel point le film était en avance sur son temps, sur plein de sujets, sur enfin, je veux dire, c'était Internet, c'était les hackers, c'était tous les trucs qui arrivent dans pas très longtemps. Donc, ça a été un des animes qui a fondé ma culture de tout ça.
Alors on va se tourner vers les plus jeunes maintenant. Kefren, t'avais quel âge en 97 quand le film est sorti?
Il était pas né.
Moi j'étais pas né. Et j'avais 3 ans.
Alors comment est-ce que tu as découvert toi Ghost in the Shell et du coup quelle est ton appréciation sur la franchise?
Moi j'ai découvert Ghost in the Shell quand j'étais au lycée et en fait ça faisait partie de ces grands films cinéphiles qu'il faut voir aussi bien occidentaux que orientaux et c'était un palier dans l'animation et dans le cinéma en général et moi j'ai découvert le film alors que j'étais porté sur la philosophie et justement contrairement à Alex, justement, j'ai presque tout compris et justement, c'est ça qui m'a. non mais moi j'étais déjà justement plus vieux, je pense.
Et c'est que c'était pas Internet à l'époque.
Et justement, c'est ça qui m'a plongé dans l'univers de Ghost in the Shell, mais surtout dans l'univers d'Oshi qui lui est très porté, qui est porté sur des considérations similaires tout au long de son œuvre. Et du coup, pour moi, ça a été une grande découverte, mais surtout une porte d'entrée pour l'univers d'un cinéaste que j'aime beaucoup aujourd'hui.
Salut Justin.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Alors, Ghost in the Shell pour toi?
Alors moi, en fait, j'ai dû d'abord lire, je pense, le manga. J'ai commencé par la Shiro. Je pense que j'ai dû lire Appleseed et puis Ghost in the Shell à l'époque. Et puis l'imagerie un peu d'Oshi, de me familiariser avec... pour aussi Club Dorothée, il y avait la série télé Patlabor en même temps que les films. Donc moi, j'ai Patlabor, je suis d'abord découvert par la série télé, donc le côté un peu animation assez réaliste qui filme le quotidien et tout. Donc j'ai plutôt commencé par là. Et ensuite, pareil, donc au moment où le film est sorti, voilà, il y avait le label James Cameron à recommander. Donc c'est ce qui m'a incité à le voir. Donc je pense pas en salle à l'époque, mais un peu plus tard quand il est sorti en DVD. Et donc... le côté existentiel, le côté atmosphérique, et puis l'esthétique cyberpunk qui était déjà en avance sur son temps, puis la musique de Kenji Kawai, ouais, tout ça, ça m'a bien agrippé dès la première vision. Puis bon, c'est un film que je revois régulièrement depuis tous les 3-4 ans au film.
Salut Martin.
Salut.
Alors Ghost in the Shell pour toi?
Oula, je suis peut-être le plus vieux, donc ici, Génération Club Dorothée forcément. J'avais déjà découvert l'univers de Oshi dans la revue Kamea, qui avait été une revue de pré-publication de chez Glénat. Je pense, les seuls qui ont fait ça. Hein. C'est reprendre le schéma japonais.
Il y a eu quelques tentatives après, il me semble, dans les années 2000, mais ça n'a jamais. Notamment des votes des lecteurs pour continuer les séries ou pas. Ouais. Mais du coup, ça, je me rappelle plus.
Comment
ils
demandaient.
Ils promouvaient tout leur catalogue à l'époque, bon, qui est quand même un peu restreint. Et ils allaient vraiment miser sur Shiro, je me souviens. Puisqu'il est Orion, il y avait Appleseed et puis Ghost in the Shell. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur. Et j'étais assez fasciné par sa vision du futur, très technoïde. Et puis, j'étais en école de cinéma à l'époque et j'ai découvert via un de mes amis une cassette pirate japonaise du film, quoi. C'est-à-dire à peu près 6 à 8 mois avant qu'il sorte en salle. Pas sous titre, mais bon, déjà visuellement, tu t'en prends les yeux, quoi. J'avais déjà vu Patlabor 1 et 2 et on retrouvait déjà l'univers d'Oshi. Il y avait quand même une empreinte très marquée, notamment entre les scènes d'action, des scènes vraiment très contemplatives où il filme la ville, les personnages. Il y a quelque chose qui vibre, et puis forcément, il y a la musique de Kenji Kawai qui apporte une autre strate qui est vraiment. Assez passionnante. Et puis, forcément, il y avait la dimension philosophique. Alors, moi, j'étais pas très calé en philo, mais j'arrivais quand même à comprendre. Parce que, c'était. Ça me semblait plus simple que ce que déjà développait Shiro, qui partait vraiment des grands délires. Et puis, il y avait en bas de page des têtes de.
On va y revenir.
Shiro, c'est pas non plus tout plus facile à lire, mais en tout cas, c'est assez passionnant. Et puis non, ça m'a marqué. Et puis bon, quand j'ai découvert sur grand écran, ça m'a renversé, quoi. C'était autre chose que de voir une cassette pirate. Ce sont des images qui font partie vraiment de la culture de science-fiction, hein, vraiment. que ce soit cinéma, animation, enfin, c'est vraiment un monument. Hein, côté, Ghost in the Shell, ouais. C'est un monument. Alors, peut-être plus. Peut-être pas suffisamment, parce qu'on en reparlera. La franchise n'a pas été un appel suffisant.
Ouais, après le film de Oshii, on va voir effectivement les voilà. Différentes.
Et puis après, j'ai continué sur toute la lancée. Quand ils sont sortis Standalone Complex, j'ai suivi la série au fur et à mesure. Les différents animés, Rise, qui à mon avis est un moins bon, mais bon voilà.
Ok. On va dérouler effectivement les différentes déclinaisons de Ghost in the Shell. Elias, c'est quoi Ghost in the Shell pour toi?
En fait, ce qui est marrant, c'est que je suis né l'année où est sorti le film en salle en France, et que au final, mon histoire n'est pas si différente que celle de personnes qui l'ont vu à la sortie en salle. C'est-à-dire que je l'ai vu à un moment où je commençais à peine à m'intéresser au cinéma asiatique. J'ai dû voir Old Boy 5 mois avant. Old Boy, c'était mon grand défi pour le cinéma asiatique. Et du coup, j'ai commencé à mater d'autres films, mais Ghost in the Shell, c'est un nom qui revenait beaucoup. Donc j'ai regardé ici, je me rappelle, un 1er janvier, totalement en convalescence. Je crois que je l'ai vu genre en 5 fois, parce que je m'arrêtais toutes les minutes pour me rendormir, etc.
Le film de votre gueule de bois. Donc.
Voilà. Mais bizarrement, j'ai un très bon souvenir. Et ça a vraiment lancé en fait, chez moi tout un délire cyberpunk qui a duré pendant 3-4 mois, où je me suis tout maté de Tetsuo à Serial Experiment Line, tout ce que je pouvais trouver dans un sujet en anime ou en film. Et pour moi, c'est quelque chose, pour moi, c'est un peu en fait, le point de départ qui m'a fait vraiment plonger dans du coup, un monde que je ne connaissais pas, qui est celui de l'animation japonaise. Je pense que c'est peut-être le premier animé que j'avais vu depuis que j'ai vu Naruto quand j'avais 10 ans. Et du coup, je suis vraiment retombé dedans grâce à ça. Et c'est vraiment quelque chose, Ghost in the Shell, pour moi, c'est un peu une pierre blanche dans ma cinéphilie. C'est vraiment passé de. Le cinéma asiatique, j'aime bien. Vraiment, je m'intéresse à ça. Il y a des thèmes vraiment qui me plaisent beaucoup et un univers qui me parle beaucoup. Et c'est aussi la musique qui m'a beaucoup marqué, que j'ai écouté pendant très longtemps après.
Bonjour Elia.
Bonjour.
Alors, Ghost in the Shell, comment l'as-tu découvert et qu'est-ce que ça représente pour toi?
Je l'ai découvert aussi sur le tard en fait, puisque j'avais, j'avais 9 ans quand il est sorti, donc je suis pas allée voir ça. J'ai dû le découvrir il y a une dizaine d'années, au moment où je me plongeais dans l'animation japonaise en fait. Donc, je regardais les titres qui ressortaient le plus souvent en fait sur internet et je me suis dit bon allez voici In the Shell, c'est parti. Je crois qu'à la première vision je me suis grave emmerdée, même si ça m'a marqué parce que je me suis rappelé des images et de la musique pendant très longtemps et je me suis fait chier quand même. Et du coup j'ai dû le revoir quelques années après, là ça a mieux fonctionné et je l'ai revu peu de temps, il y a un mois en fait, juste avant la sortie du film pour bien me le rentrer en tête et là oui je me suis vraiment rendu compte que le film était brillant en fait petit à petit à chaque vision en fait je pense qu'on apprivoise le film à chaque fois qu'on le revoit en fait.
C'est pas une œuvre facile hein, de toute façon.
Non, c'est pas facile.
Et effectivement, je vous rejoins à peu près là-dessus. Moi, c'est vrai que l'œuvre m'avait pas marqué. Je l'avais vue effectivement à la fin des années 90. Ça m'avait suffisamment intéressé pour que j'essaye de lire le manga. À l'époque, c'était les grosses éditions cartonnées de Glénat, format un peu comics. Et du coup, ça m'était vraiment tombé des mains. Donc, j'avais pas trop cherché à aller plus loin dans cet univers de Ghost in the Shell. Et c'est vraiment Mamoru Oshii avec Innocence. Qui m'a replongé dans cet univers. Moi, je trouve que à l'époque, la pierre angulaire pour moi, c'était vraiment Innocence que j'avais trouvé brillant. J'avais adoré aussi Avalon et il y avait Skycrawlers qui allait actualiser tout ça. Et donc, ça m'a fait réévaluer, enfin revenir sur le film de 1995. Alors après, par contre, j'ai toujours des doutes, des interrogations sur la narration de Shiro dans le manga que je trouve. Beaucoup trop éclaté pour vraiment s'y plonger complètement. Et je trouve que Oshii arrive vraiment une appropriation complète de cette œuvre qui a des idées brillantes pour en faire une œuvre à part entière. Alors ce qui peut nous faire une transition, en revenant justement entre 89 et 91, quand Shiro imagine The Ghost in the Shell, donc le manga qui va donner le film de Oshii, est-ce que Martin, tu peux un peu nous présenter ce qu'est ce manga, ce qu'il représentait un peu à l'époque.
Bah déjà, enfin, faut bien savoir, c'était un manga qui était publié aux éditions Kodansha. Je sais plus si c'était Jump qui le prépubliait ou. Bon, bref, c'était l'un des grands magazines, enfin les grands éditeurs japonais. Shiro arrive vraiment dans une vague, comment dire, de science-fiction qui est vraiment une espèce de niche. Qui commence vraiment à passionner certains auteurs, notamment au cinéma, Tsukamoto Shinya avec Tetsuo. C'est vraiment l'arrivée de la technologie, enfin pas l'arrivée de la technologie, mais en tout cas son développement, et au moment où il va vraiment arriver à une espèce de stade d'hypermodernisme. Et il est déjà en train de se plonger à imaginer quels sont les problèmes moraux que vont proposer tous ces. Tout cet amas fait de technologie, quoi. C'est-à-dire l'internet, l'intégration d'outils électroniques dans le corps humain, et puis bon, bah, finalement les corps cybernétiques, et puis il imagine en plus une espèce de monde vraiment géopolitique, hein, vraiment assez réaliste finalement.
Alors je vais poser une question que normalement posait Elvire. En fait, de quoi ça parle The Ghost in the
Shell? Oui, c'est ma question, ça.
Bah, Ghost in the Shell, on suit le major Motoko Kusanagi, qui est un cyborg, le premier de son espèce, elle a un cerveau humain dans un corps cybernétique, et elle est le leader, on va dire, d'une équipe d'élite, d'assaut d'élite, qui est la section 9, qui est une section anti-terroriste, c'est le cyberterrorisme, voilà, qui dépend directement des ordres du Premier ministre. Donc voilà, et elle et comment dire, ses acolytes justement déjouent des complots, et puis se retrouvent face à des cybercriminels très puissants. Donc bon, on retrouve un espèce de mélange entre des plongées dans le cyberespace, des scènes d'action avec des gunfights absolument sidérants, et puis bon bah voilà, et puis il y a des grands complots politiques, donc voilà, c'est très très dense, hein, on va dire. Et
c'est-à-dire que narrativement aussi, c'est deux volumes qui sont en cours de republication.
Il faut bien savoir, c'est que Glénat les avait sortis sous la forme de deux volumes, qui étaient les versions, on va dire, dans le sens de lecture occidentale. À l'époque, les droits étaient rachetés par les Américains, et ils les rachetaient pour le sous-territoire français. Donc du coup, ils étaient déjà transformés, et puis surtout, on n'avait pas encore l'habitude de lire les mangas dans le sens original. Et les traductions ne se faisaient pas depuis le japonais, se faisaient depuis la version anglaise. Donc on perdait beaucoup, beaucoup de choses. Et les Glénat avaient sorti donc, la première partie, on va dire, de Ghost in the Shell. Donc des débuts, la scène d'introduction qu'on voit dans le film d'Oshi jusqu'à la conclusion avec l'arc du Puppet Master. Donc voilà. Et ensuite, il a publié, la deuxième saison, si on veut. Donc, c'est-à-dire les aventures de Motoko Kusanagi, fusionné plus ou moins avec le Puppet Master. Donc, qu'est-ce qui arrive? Et puis, après, il y a eu, je crois, la version 1.5, en fait, qui sont des histoires annexes, si je ne me trompe pas. Ça fait très longtemps que je les ai lues. Hein. Qui étaient en plus livrées, je crois, qu'un CD-ROM avec d'autres histoires, il me semble, qui étaient par contre pas traduites, si je me souviens bien.
Interactif.
C'est bordel.
Interactif. Oui, interactif.
Oui, l'histoire de la publication là, c'est compliqué. Là, ouais. On peut retrouver Glénat un peu corrigé le tir, forcément.
Alors, voilà, justement, l'occasion du film avait été Glénat a sorti une version perfecte. Donc, à savoir, le manga, le premier tome pour l'instant est sorti, le deuxième sortira au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, il est un format originel, manga. Sens de lecture originelle, ils ont refait, donc ils gardent les onomatopées avec les traductions des onomatopées, et puis ils ont refait une toute nouvelle traduction, tout ça suivant les ce que vous voulez au Shiro, enfin la sa vision. Alors beaucoup de gens vont aller en disant ah c'est une version censurée. Alors en effet il manque deux pages et deux pages de Nichon. Ah. Voilà.
Ah, alors, mince, alors.
Ah bah mince alors donc.
Censure.
Ça exactement. Ça alors il n'y a pas de censure de la part de Glénat, c'est Shiro qui a décidé comment dire
ça
de.
Rien,
ça sert à rien. C'était du pur fan service et que bon bah aujourd'hui il s'est dit bon bah c'est ça sert à rien. Voilà c'est. On peut l'enlever, c'est, voilà, c'est pas ça qui va apporter grand chose au schmilblick. Bon. Donc voilà.
Je crois qu'Alex, t'as relu Ghost in the Shell tout récemment. Est-ce que ça t'a semblé mieux qu'à l'époque
dans cette Alors, ça me semblait mieux qu'à l'époque parce que c'était un peu plus clair. Mais je trouve que c'est toujours dans le bordel en fait. Ça reste quand même. Alors je sais pas si c'est parce que. J'ai l'habitude de lire autre chose, mais c'est quand même très très compliqué. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, c'est très chargé. C'est vraiment très très chargé. Il y a pas, c'est limite s'il faudrait lire en fait sur du, je sais pas, du A3 pour qu'il y ait la place pour de voir les choses.
Non, ils avaient raison au début alors.
C'est ça. Ils avaient peut-être raison au début, mais parce que c'est chaque case, je l'ai relu il y a quelques jours. Très belle édition d'ailleurs au passage. Moi j'ai beaucoup aimé et quelques pages colorées, enfin colorisées au début.
Il y a beaucoup de pages colorisées d'ailleurs. Ouais. Il y a pratiquement tous les débuts de chapitres. Ouais, il y a 8 ou 9 chapitres où ouais. Tu as 4-5 pages qui, ouais. qui sont colorées. Donc ça, ce qui était beaucoup pour un manga ouais. de 89.
Ça c'est vraiment appréciable. Après ça reste quand même, faut vraiment aimer parce que ça reste quand même bordélique et c'est pas facile à aborder en fait.
Voilà, le problème que j'ai vraiment avec Shiro, c'est quelque chose qu'il explique, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les scènes d'exposition. Mmh. Il le dit clairement à un moment, je crois, dans les notes. Oui. Ce qui fait qu'on est plongé directement, en fait, au milieu d'une action dont on n'a ni les tenants, ni les aboutissants. Mmh. Et du coup, il faut faire un peu le lien. Et par contre, au contraire, il adore les explications. Mmh. Donc, il va surcharger ses pages, ce que j'appelle ses notes de lecture un peu Wikipédia, mmh. c'est-à-dire qu'il va... Il va avoir lu quelque chose sur la bioéthique et il va te faire la note de lecture sur ton livre qui va te prendre la moitié de la page. Du coup, pas d'exposition, plus beaucoup d'explications annexes, ça rend quand même une lecture très ardue et donc une narration qui est extrêmement parcellaire.
Il propose quand même au lecteur, il dit la première fois, lisez-le sans les annotations, parce que sinon ça va vraiment ralentir votre lecture.
Moi je sais qu'il y a un truc écrit dans un bouquin, je lis quoi.
Mais moi aussi je faisais, mais c'est quand j'ai relu Ghost in the Shell, bon déjà j'étais donc dans mon lit tranquille, il y a moins de lumière, donc enfin, comment dire,
c'est un peu trop intime là.
Voilà, et c'était juste moi et Motoko. Et le problème, c'est que j'arrive pas à lire les annotations. Quoi.
C'est Glossaire in the Shell.
Quoi. Ouais, c'est Glossaire in the Shell. Mais c'est vraiment, c'est écrit tout petit, quoi. Et c'est sans lunettes et avec une lumière qui est pas suffisamment forte, je me pète les yeux.
C'est un peu à double tranchant parce que autant les explications parfois sont vraiment des choses qui ont à peu près rien à voir avec l'intrigue, à d'autres moments ça t'explique quand même ce qu'il essaye de représenter dans les cases.
Donc, oui.
Pourquoi est-ce qu'il les représente
fait,
donc si tu les lis pas. Ça, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre effectivement où il va en venir.
J'ai déjà lu plusieurs fois Ghost in the Shell, donc ça va, je savais où j'allais quoi. C'était vraiment plus l'intrigue qui m'intéressait et c'était que ça le déroulait quoi. C'est un peu confus au départ, mais moi j'aime bien. Hein.
Et par contre, on a souligné l'importance des films de Oshi, on va y revenir, mais il y a tout de même ce côté, on est entre 89 et 91 pour les premiers volumes du manga, il y a quand même un côté visionnaire sur ce que va devenir Internet, sur les problèmes effectivement que tu soulignais, sur les problèmes moraux qu'entraînaient les révolutions technologiques. Mm. Et donc, on ne peut pas enlever ça, l'importance qu'il a eue de voir certaines problématiques à une époque donnée qui vont nourrir des pans entiers du cyberpunk, du cinéma par ailleurs. Mais qui, à mon sens, va quand même être complètement actualisé et sublimé par Mamoru Oshii, notamment avec cette version de 1995. Et donc, on y arrive à ce film de Oshii, Elias.
En fait, moi, j'ai une question qui a un peu qui sont profanes, en fait. Ghost in the Shell, c'est antérieur ou postérieur à Akira, le manga?
Ah, bah, la transition.
C'est postérieur.
C'est postérieur. C'est juste... Et du coup, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on parle de Ghost in the Shell comme générateur de la vague cyberpunk, alors qu'il y a quand même Akira avant, qui, je pense, est un énorme succès au Japon. Si je me rappelle bien, j'en sais rien.
C'est pas le cyberpunk.
Parce que c'est pas vraiment cyberpunk.
Mais c'est un peu lancé.
C'est l'anticipation.
Et puis surtout, t'as pas les mêmes thèmes au final dans Akira. Parce que,
oui, bien sûr, je vois les thèmes trop différents.
Akira, c'est beaucoup.
Je sais qu'on a plus repris les thèmes du Ghost in the Shell que ceux d'Akira, bien sûr. Je vois bien ce que j'ai.
Et puis surtout, en fait, on arrive même maintenant à être plus proche de Ghost in the Shell que Akira. Jusqu'à maintenant, Akira, j'ai pas encore réussi à voir la moto rouge et les extraterrestres.
Attends, c'est grosse déception.
C'est pas ce tabou. Il faut qu'il y ait une.
Il faut déjà qu'il y ait une apocalypse et puis les JO de Tokyo.
Ghost in the Shell, ça crée l'imagerie du code, finalement, qu'on a revu dans Matrix. C'est pour ça.
Je suis plus Ghost in the Shell que je vois Akira, bien sûr, mais. Voilà, enfin, je veux juste dire ça et aussi dire que, enfin, que le, enfin, parle un peu du manga aussi parce que moi aussi j'ai une,
expérience avec.
voilà. Malgré tout,
dans mon expérience, mes expériences très courtes, c'est que le manga, c'est que j'avais adoré les films. Hein. J'adore le film, j'adore le 1, j'adore le 2, j'adore.
J'aime bien la série. Mais le manga,
je veux dire concrètement, je pense pas avoir réussi. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts à dépasser la page 40, 50. À chaque fois, je lâchais. Et je pense que du coup, ce podcast va forcément me remotiver à rentrer chez moi et relire mon édition Glena qui fait 2 mètres sur 3 mètres qui
sont en, la nouvelle,
comme un roman.
Prends la nouvelle,
ouais. Mmh. Bah, du coup, j'irai acheter la nouvelle avec mon argent qui n'existe pas. et vraiment, mais je.
Tu demandes à Martin de te présenter.
Si on peut résumer aussi, le manga est autant punk que cyber. Et c'est vrai qu'il y a un côté finalement très punk dans la narration de Chiro.
Quand t'es habitué. Enfin, comme moi, vraiment, j'ai eu à l'époque où je me tapais Ghost in the Shell, Sierra et Thierry McLean, Tetsuo, tout ça, qui sont des choses quand même très, très, très froides et très, très mécaniques, et t'arrives là-dedans et c'est le bordel, quoi. Et c'est très déstabilisant, et au final, ça donne pas très envie de continuer.
Et donc,
du coup, je vais rentrer, j'ai mis à la suite.
Qui a continué, c'est Mamoru Oshii, qui a décidé donc de l'adapter en 1995.
Wow. C'est pas grave, Elias, moi, j'ai jamais fini mon manga, on s'en sort.
Et donc Justin, sur le film.
Donc, le film donc, de 95. Alors déjà, ça arrive, c'est une sorte d'aboutissement un peu esthétique ou de thématique aussi pour Oshii et puis au niveau du contexte de production aussi, vu que c'est en fait début des années 80, il a travaillé un peu pour la télévision, il a fait donc l'OAV que chacun connaît, donc Beautiful Dreamer, qui a resté son film le plus abouti jusque-là. Sinon, il avait un peu galéré, il a essayé de travailler. Pour le studio Ghibli, c'est pas entendu avec Miyazaki, donc il est parti.
Oshii, c'est le pionnier des OAV. Il a sorti le premier OAV qui a jamais existé. Qui est. Merde, j'ai oublié le titre.
C'est l'œuvre de l'ange.
C'était bien pourtant, c'était bien parti.
C'est l'œuvre de l'ange. Non, c'est pas l'œuvre de l'ange. Il a sorti le premier OAV qui est jamais existé, j'ai oublié le titre. Et un autre qui s'appelle. Gozenso Benso Samai, un truc comme ça, qui est Long Live Ancestor.
Justin. Ouais.
Et donc il a un peu galéré, donc comme j'ai dit, donc il s'est pas entendu avec Miyazaki, donc parce qu'il était parti pour travailler avec le studio Ghibli, ça s'est pas fait. Il a fait quelques films live ou des courts métrages entre temps. Et en fait, le moment où il commence à avoir une structure qui lui permet de faire des films ambitieux dont il veut, c'est au moment où il crée avec d'autres Edgir, donc c'est un collectif où on trouve donc Yamamori Oshii. Il y a le scénariste Kazuhiro Ito, il y a Kenji Kawai, il y a pas mal de techniciens aussi, donc qui vont participer à cette structure. Et donc ce qui va aboutir au premier Patlabor, donc qui est fait en parallèle d'ailleurs avec le film et la série télé. Donc ils sont produits en parallèle. Je ne sais pas d'ailleurs si Oshii travaille spécialement sur la série télé. Non, personne sur la série, parce que c'était produit en parallèle, c'était produit en même temps. Mais en tout cas, donc. Ça aboutit à produire le premier Patlabor, donc qui rencontre un grand écho, qui a un grand succès critique et qui est à l'international aussi. Et donc qui est plutôt donc un thriller, donc plutôt vraiment politique-fiction, pas encore politique-fiction, mais plutôt thriller technologique, on va dire, en quelque sorte, dans un univers réaliste qui annonce un peu Patlabor, où donc on estime que c'est traditionnel, enfin que c'est. C'est une habitude d'avoir les machines qui participent au quotidien avec ses mécas, ses labors. Et donc, au milieu de ça, on a un espèce de thriller un peu technologique. Il va pousser un peu plus loin avec Patlabor 2, qui sera plutôt de la politique fiction. Donc là où il y a déjà beaucoup moins d'action. C'est vraiment, on sent déjà le côté introspectif où l'action ne l'intéresse pas vraiment. où c'est vraiment réflexif, on a ça.
Et le côté dans... aussi, on switch sur les personnages secondaires dans le deuxième film.
Oui, c'est ça, oui, dans le deuxième, oui, effectivement. Le Alphonse, le robot, voilà, qu'on voit dans la série, qui est assez mis en avant dans la série ou dans le premier film, que là, ça passe complètement à là. C'est plutôt les chefs voilà, derrière qui sont mis en avant. Et donc, c'est plutôt politique fiction. D'ailleurs, pour l'anecdote, le pitch, voilà, l'histoire de le pitch de Pat Labore, ça a été repompé quelques années plus tard avec un film hollywoodien, Couvre-feu, de Edward Wick. C'est que ça raconte quasiment la même chose. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu du piochage ou quoi, ou est-ce que ça ressemble.
C'est par essence, les influences japonaises.
Parce que c'est vraiment, c'est la même histoire, vraiment. Fait,
Même The Dark Knight Rises, hein, tu vois, c'est quasiment le même. Ouais, le dernier tiers, c'est quasiment le même truc.
Et donc là, c'est vraiment, donc c'était beaucoup plus introspectif, plus réflexif, même si il manquait peut-être le côté métaphysique qu'on voyait dans réflexif, qu'on voyait dans Beautiful Dreamer, par exemple, ou dans certains de ses courts-métrages, dans des films live. Il manquait un peu ça, là, il s'était imposé quand même un cadre assez, assez réaliste, assez carré. Et là, par contre, avec Ghost in the Shell, il va complètement se lâcher. Donc il y a l'environnement voilà, de Shiro, assez réaliste, futuriste, mais malgré tout, voilà, il impose son côté métaphysique, ses instants plus existentiels à travers la quête du majeur Kusanagi. Et donc, on aboutit voilà, à cette espèce d'esthétique, ces moments de planant, voilà, où on traverse la vie avec la musique de Kawaii, où vraiment, c'est vraiment très introspectif, où finalement, le côté polar... qu'il pouvait avoir dans le manga ou qu'il aura plus exploité dans la série.
Parce que c'est une intrigue d'espionnage et contre-espionnage, ce qui prend à l'origine comme intrigue de base.
Hein. Oui, et donc qui est plus développé dans le manga ou même dans Standalone Complex plus tard, où là, bon, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus, où c'est vraiment la quête du majeur Kusanagi, donc qui aboutit donc avec cette intrigue avec le Puppet Master. Avec le final que je ne vais pas raconter au cas où. Quoique, bon, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu.
Des gens qui l'ont pas vu.
Donc, où que ça aboutit, voilà, c'est une sorte de 2001, on va dire, du cyberpunk, avec une fin ouverte, voilà, qui ouvre pas mal de perspectives sur l'avenir de l'humanité, sur l'être humain, la fusion avec la machine. Une ouverture qui est restée dans les annales.
Très bien. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Justin, il y a une autre personne qui est importante. Dans la création de l'univers de Oshii, c'est le scénariste Kazunori Ito qui va amener finalement toutes les thématiques finalement du rapport de la société des réseaux qu'on voit aussi bien dans les Pat Labore que dans Ghost in the Shell, aussi la réutilisation de certaines figures mythologiques qui sont réutilisées justement dans un cadre contemporain et qui va réutiliser dans d'autres de ses scénarios, notamment la trilogie des Gamera qui a relancé le Kaiju Ega dans les années 90, où on a des mêmes codes que dans Ghost in the Shell, où on réfléchit sur le rapport entre la mythologie et ce qui se passe dans une société où la technologie règne. Le rapport aussi entre les figures humaines et les figures géantes, par exemple, comme la jeune fille et la tortue, qui possède le même rapport entre Noah et Alphonse, qui a un rapport qui se fait sur le temps aussi, c'est-à-dire les adolescents grandissent et leur rapport avec les géants grandissent aussi. Et il y a aussi effectivement la référence à Babel,
dans le premier
Pat Labore, comme ça, qui sont utilisés aussi dans ces films de monstres. Et dans le dernier Gamera, il y a aussi une utilisation de la culture des réseaux, une culture alternative des réseaux, au-delà du gouvernement, pour avoir des informations sur les monstres, en fait. Dans les Gamera, on voit l'Internet balbutiant qui est en train de prendre une place comme une sorte de société alternative où les gens vont prendre des informations. Et ça, c'est un truc qui est très propre à ce scénariste.
C'est nazirisé derrière le Pat Labore 3 parce que vu oui, c'est lui parce qu'on sent encore.
Non, c'est pas Ito. Non, c'est
mais ils ont gardé de ça parce qu'il y a encore un peu de ça dans le troisième Pat Labore aussi.
Et c'est là, tu vois, à quel point l'influence de Oshii, elle a marqué au fer rouge cette franchise-là aussi. Ce qui était intéressant sur Pat Labore, c'est qu'ils ont fait vieillir les personnages. Dans le deuxième, ils ont fait vieillir les personnages de 3 ans, en fait, pour correspondre à la date de sortie entre les deux films. Je crois que c'était une des premières, justement. Noah, on voyait qu'elle avait pris.
Elle était marquée.
Elle était un peu plus vieille, entre guillemets.
Quelqu'un veut réagir encore sur la version de 95. Alors, du coup, le film a un énorme impact, notamment sur le cinéma américain. Matrix le popularise vachement, et Wachowski. Voilà, en fond un film qui compte. Du coup, je crois qu'il y a une standalone complexe. C'est quelle année?
Standalone complexe, c'est 98-99.
Hein. Ah non, c'est plus tard. Hein. C'est les années début des années 2000. C'est 2003-2004.
Non, pas si tard que ça.
C'est tard. Ah, Innocent, c'est 2004, mais je veux dire, standalone complexe, c'est début des années 2000.
Alors, en tout cas, avant Innocence. Avant Innocence, il y a la série Standalone Complex qui est lancée, dont on va parler après, mais Mamoru Oshii donc revient sur la saga et la franchise en 2004 avec Innocence.
C'est en
2004. Donc 2004. Il était à Cannes, alors, au Festival de Cannes.
Innocence, c'est 2004.
2012, Standalone Complex, et 2004, Oshii revient avec Innocence. On va d'abord parler un peu d'Innocence, Kefren, je ne sais pas si tu veux en dire... quelques mots, puisque tu étais intéressé par le côté cartésien. Ouais.
Oui, justement. Non, mais dans Innocence, ça fait longtemps que je l'ai vu. l'intrigue est pas similaire, mais c'est une intrigue aussi policière qui est basée cette fois sur les robots geisha, justement, que l'on voit dans le film de Sanders. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que justement, Oshii a les pouvoirs de mettre ce qu'il veut dans le film, peut-être trop de pouvoirs. Car justement, Oshii passe son temps à citer les philosophes, par exemple, dans les dialogues, etc. Et par exemple, il y a un dialogue célèbre qui est juste avant qu'ils aillent voir Kusanagi, qui vit dans un espèce de manoir et tout ça. Ils discutent, et justement, et tous les... Ils discutent dans
c'est
un...
C'est pas tout à fait ça, mais c'est...
Oui, mais c'est justement...
C'est quelqu'un qui va les mener à Kusanagi.
Oui, oui. Ouais. Et justement, ils discutent dans un hélicoptère, et chaque phrase... est une citation en fait de Descartes et des choses comme ça, et Mamoru Oshii revendique comme ça un côté philosophique et très ésotérique qui guide l'œuvre, qui fait que c'est une œuvre peut-être plus difficile à saisir que le premier Ghost in the Shell.
C'est un mélange de fascination,
techniquement et dans la mise en scène il accompagne justement sa réflexion par une mise en scène qui tente d'exprimer ses idées par des jeux de mise en abîme, des jeux temporels, etc., qui tente de mettre le cinéma le temps de...
Martin.
Encore une fois, Oshii reprend l'un des chapitres de la première partie, qui est le Ghost Dubbing, qui est en plus l'une des histoires les plus intéressantes, hein, qui... mais Shiro, se concentrait vraiment sur l'exploitation d'êtres humains qui sont utilisés pour créer des réseaux et des copies. C'est un peu ce qu'on voyait aussi dans le Matrix, c'est-à-dire des êtres humains qui viennent un peu des piles, quoi, si tu veux.
Les ghosts, effectivement, sont piratés et copiés pour être mis dans des corps cybernétiques sont utilisés. En fait, sont des robots sexuels. Et ça leur donne une espèce d'humanité. Et donc, effectivement, il y a une traite.
Et puis, il y a des bugs un peu mortels, on va dire. Et on se rend compte qu'en vérité, ces bugs-là ne sont pas forcément innocents et qu'il s'agit, en vérité, d'un SOS. Et il va falloir remonter la source pour pouvoir découvrir un peu le poteau rose et puis surtout les institutions qui sont derrière. Parce qu'en plus, le bouquin de Shiro, il me semble que c'est une entreprise d'État ou quelque chose comme ça qui s'occupe. Enfin,
oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est... Oshii part de cette base. C'est un petit chapitre, hein, d'ailleurs, dans le manga. Et dans le film, ça dure à peu près 10 minutes. C'est-à-dire c'est la scène d'exposition. On est vraiment dans un film noir au début, avec des éléments. Il y a un combat avec des yakuza, notamment avec une intrigue. On joue de poupées russes, donc effectivement avec des pistes qui s'imbriquent dans des pistes. Et ça va être réutilisé ensuite, d'ailleurs, avec des rêves et des visions qui s'imbriquent dans des visions, ce qui est quelque chose que Oshii aime beaucoup et va utiliser assez fréquemment dans son cinéma. Et il revient sur cette intrigue à la fin, où il boucle en fait sur l'intrigue du manga de Shiro. Avec le retour de Kusanagi. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il part dans une réflexion sur la mise en scène, sur l'humain, qui là lui est complètement propre en fait. C'est vrai qu'il y a une réappropriation complète du manga et des thématiques du manga. À mon sens, ce qu'il a fait dans le premier Ghost in the Shell déjà, mais là, il fait vraiment quelque chose qui lui appartient en propre complètement. Elias.
Là, depuis tout à l'heure, on parle de réflexion, mais même à un niveau sensitif pur,
Enfin, Innocence, c'est vraiment un film qui... Autant le premier, c'est encore une narration qui se tenait et qui se déroulait au fur et à mesure, autant le deux, en fait, perd beaucoup de narration, en fait, mais à la place, tout ce qu'on gagne, c'est en vraiment en sensation quasiment pure et en expérimentation assez fascinante, et vraiment, mais beaucoup de choses qui sont vraiment très, très intrusives personnellement et très, qui vraiment te bouleversent et vraiment touchent jusqu'au fond. Par exemple, la scène que tout le monde connaît, je pense, c'est vraiment la scène dont on te rappelle, c'est celle du manoir qui se répète encore et encore, jusqu'à finir sur un quelque chose qui est vraiment terrifiante. Et toutes ces scènes, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, quelqu'un qui marche beaucoup sur la sensation dans les films. J'aime beaucoup quand un film me touche personnellement de manière insidieuse, c'est-à-dire pas forcément de manière efficace, mais de manière profonde. Innocence, c'est un film qui a vraiment touché de manière profonde. C'est un film qui, par la mise en scène pure et en se délestant au final de la narration vraiment souvent plus expérimentale et plus jusqu'au boutiste que le premier, arrive à créer des choses chez le spectateur qui étaient, quand je l'ai vu, totalement nouvelles, totalement inouïes. Bon, c'est un film qui a une place dans mon cœur qui est très particulière, et j'aime beaucoup ce film, en plus qui donne aussi quelque chose qui est très intéressant dans la saga, c'est qu'au final tout le monde parle du Major depuis le début, mais chaque film de la série en fait, a donné une place importante à un personnage différent. Le 1 c'est le Major, le 2 c'est Batou, et le troisième film qui est issu de la série c'est Tokusa, qui a le rôle principal. Et c'est aussi qui est assez important à dire, c'est que c'est une série, c'est aussi d'ailleurs un des défauts du film, qui est aussi faite peut-être par son casting, et qui est du coup plus mis en valeur, je trouve, dans le deuxième, parce que le premier est un peu parasité par le Major, qui est un personnage qui est fascinant. Et du coup, le second film qui met en valeur aussi ce personnage, enfin surtout Batou, mais aussi Tokusa, qui a un rôle plus important. Et pour ça, je le trouve aussi très bien, parce qu'il met plus vrai, il permet de développer ce monde qui est vraiment fascinant, quoi.
Alors, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas un film qui est complètement déconnecté de tout enjeu narratif et qui parle des expérimentations complètement
plus.
Il se tient assez en tant que.
On peut trouver ça quand même un peu abscon par rapport au premier, quand même. Il y a un côté mi-fascination, mi-abscon quand même. Je trouve que le premier, c'est l'équilibre. Il a trouvé l'équilibre parfait avec le premier, entre le côté réflexif, existentiel, l'action, la narration. Il y a un équilibre vraiment assez idéal.
Il y a une scène d'action aussi dans Innocence.
Là où j'ai du mal vraiment avec Innocence, c'est les expérimentations avec les images de synthèse, et qui ne fonctionnent pas du tout.
En fait, j'allais y venir parce que le film en 2004 m'avait semblé absolument parfait. Et j'avais trouvé ça visuellement étonnant, génial. Je l'ai revu il y a deux jours. Et du coup, on est vraiment au début de l'intégration de l'animation 3D dans des décors 2D, l'inverse d'ailleurs, plutôt. Et ça marche pas toujours. Voilà.
En général, l'animation japonaise, ils ont du mal avec ces incrustations. Assez souvent laid quand ils essaient de le faire.
C'est pas laid, tout mais temps. Ça gêne le regard. Par contre, ça gêne le regard et on voit qu'il y a quelque chose.
Il y a trop de texture.
C'est mal intégré,
C'est mal intégré.
À part dans quelques Ghibli où ils arrivent vraiment à pousser la chose.
L'impureté de la truc sert le propos, en fait. L'impureté de l'animation, si, sert le propos qui parle de la même chose, justement. Parce que si les robots sont contaminés, c'est par quelque chose d'impur. Et en fait, d'un point de vue shintoïste, l'impureté...
Je veux dire, c'est voulu si c'est moche.
Je veux dire que le caractère impur a une signification dans ce genre de choses.
Oui, mais là, je pense que c'est juste que
c'est la bonne justification.
Oui, et non, parce que c'est pas une question d'impureté, c'est une question...
Est-ce que c'est une question d'époque?
Alors, il y a une question d'époque et de technique, mais c'est une question de... Tout le film part effectivement de la confusion entre l'intériorité et l'extériorité, le réel et l'imaginaire, etc. Donc normalement, quand on a deux textures différentes, la 3D et la 2D, je pense que le but, c'était de faire en sorte que l'œil ne voit plus les différences. Et je pense qu'en 2004, ça faisait illusion. Enfin, moi, ça faisait illusion quand je l'ai vu. Et maintenant, ça fait plus illusion parce que l'œil voit la différence en fait dans cette question d'intégration.
Il y a une raison qu'il le fasse en 3D. Ils auraient pu tout le faire.
Mais c'est une technique qu'aime beaucoup aussi, puisqu'il le refait dans Skycrawlers. Et je trouve qu'en 2008, il y arrive beaucoup mieux. Du coup, cette intégration.
Ouais, après, il faut bien savoir, c'est qu'il avait fait aussi la version Ghost in the Shell 1.5. 2.0, voilà, où il avait. Voilà, où il a refait certaines scènes clés en full CGI, c'est dégueulasse. Et pendant très longtemps, c'était la seule version qu'on pouvait avoir en Blu-ray, quoi. Et on avait, enfin, moi je craignais que ce soit comme George Lucas, soit du genre, mais non, c'est celle-ci, et, voilà, la version 95.
En fait, il y a quelques années, ils avaient ressorti un Blu-ray où il y avait la version 2.0 en bonus et en DVD, genre, oui, ça, il y a ce, oui, il y a ce petit truc en plus, il y avait la vraie version de 95.
Qui était un espèce de VHS rip, tu vois, donc.
Alors, comme tu as la parole, on va conclure effectivement sur les, on va dire, les séries dérivées, donc qui sont Synod Complex et Rise. Est-ce que tu peux nous en parler?
Synod Complex, de toute façon, il me semble que c'est arrivé dans le début des années 2000. C'est Kamiyama, il me semble, qui l'a fait. Voilà. C'est à mi-chemin entre Shiro et ce qu'avait fait Oshii. C'est-à-dire qu'il se débarrasse en partie de l'espèce de surplus surphilosophique, on va dire, sans non plus gommer l'aspect philosophique. Et par contre, on est vraiment dans l'espèce de thriller ultra technologique. Il y a eu deux saisons. La première, c'était avec le rire. Le deuxième, je ne sais plus quel.
Il est bonne, ma chance.
Oui, l'année 11. C'est
lequel avec des enfants qui disparaissent? Il y a un truc, j'en ai vu un à Noël avec des gamins. Là, je me souviens de gamins.
Je crois que c'est Loffingman, le rire.
Le rire, ouais.
D'ailleurs, le méchant du film Cousé, là, il vient de la série.
Oui, il vient plus ou moins de la série. Mais en gros, de toute façon, tout le cheminement arrive jusqu'au long métrage de Ghost in the Shell Synod Complex pour montrer, en vérité, la relation entre Kusanagi et ce personnage, comment dire, le Cousé, et qui est en vérité le futur marionnettiste. Donc ça, tu te rends compte.
J'étais bien largué là. Donc, je vais rattraper le retard.
Et on revient vraiment sur les origines de Kusanagi, c'est-à-dire son accident quand elle était petite fille, dans son lit d'hôpital, avec l'autre jeune garçon qui est aussi très très atteint, et le fait qu'elle, en vérité, je crois qu'elle est orpheline, et du coup, ils vont la réparer, on va dire, et elle va devenir, en vérité, le prototype, en vérité, de cette nouvelle génération. Et donc voilà, il faudra qu'elle repaye son corps, et du coup elle va travailler pour l'armée et intégrer plus tard la sélection 9.
Yes.
Pour moi, en fait, c'est un complexe, j'ai vu dans la foulée du film, et effectivement, on ressent beaucoup plus ce côté un peu bordélique et un peu, qu'il y avait dans le manga, parce que au final, tout le monde parle du rieur, mais le rieur c'est peut-être 12 épisodes sur 24 ou sur 26. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes filler, beaucoup d'épisodes d'histoire d'un épisode qui parfois sont très bons, parfois très mauvais. Et qui, enfin,
je trouve bonne qualité.
Je trouve, en fait, gâche un peu la narration. Pour ça, je conseille d'ailleurs aux auditeurs de plus regarder le film qui dure 2h45, en fait, qui est coupé, en fait, qui est censé être une coupure de la série, en fait, et qui retrace.
C'est un remontage
de la série, en fait, qui retrace l'épisode, enfin, du Loving Man.
Il y a même des plans plus,
quelques plans et plus, quelques histoires parallèles. Parce qu'au final, la série, je trouve assez parasitée par tous ces épisodes un peu genre
énigmes
de la semaine, énigmes comme ça.
Ouais, mais moi, il y en a certains qui sont plutôt réussis. Ce que j'aime beaucoup dans les séries Synod Complex, en fait, c'est toutes les petites historiettes qui sont à la fin, là, la minute avec les Tachikoma, qui sont vraiment désopilantes. Les Tachikoma, en fait, ce sont ces robots un peu à tout faire, qui vont être type arachnide, qui suivent l'équipe de Section 9. Ils peuvent aussi aider le Major Kusanagi dans les plongées des gosses et tout ça. Et en vérité, c'est des IA, donc intelligence artificielle, qui sont branchées en réseau. Et en gros, tous les soirs, ils les mettent en réseau et ils se partagent leurs expériences. Donc ils augmentent à chaque fois. Et au fur et à mesure, il y en a certains qui vont développer une personnalité parce qu'ils sont chouchoutés par Batou. Parce que Batou, du coup, il est habitué à travailler avec eux et il leur donne une huile spéciale et tout ça. Et du coup, ils ont un peu de favoritisme et puis donc ils vont développer une personnalité. C'est très amusant, mais tu sais, cette espèce d'évolution d'une IA vers une possibilité personnalité numérique. Et des fois, il y a des petits épisodes du minute qui sont désopilants où tu as des joutes philosophiques, comme des joutes philosophiques. Où ça n'arrête pas, et alors là il faut repasser à peu près 5 ou 6 fois d'affilée pour bien comprendre tous les dialogues, mais alors là je peux vous dire que le niveau c'est vraiment c'est bien haut. Hein.
Alors, mais par contre, enfin, juste.
Ouais, yes, pour conclure.
Mais au final, la série comparée au film, surtout comparée à l'innocence, me paraît beaucoup plus. Beaucoup moins axée, tu parles de philosophie, mais au final je trouve que la série en elle-même
m'a beaucoup moins marqué à ce niveau-là, au niveau vraiment poussé sur la réflexion, poussé sur le rapport moderniste, poussé sur le rapport en fait, à ce qui fait Hideyoshi. Et pour ça, en fait, que je voulais parler d'une autre série que donc, j'ai déjà parlé 5 fois depuis le début de la série, mais qui pourrait me marquer que cette époque-là, c'est Sir Experiment Lane, qui est une série qui est très inspirée par Ghost in the Shell et qui, je trouve, en fait, reprend quasiment mieux les thématiques des films de Hoshii que la série Ghost in the Shell. Donc, si vous écoutez ce podcast, regardez Lane, c'est vraiment génial. Ouais, et voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que j'adore cette série. Et elle n'est pas assez connue.
Je confirme, c'est très bien, l'Experiment Lane.
C'est très bien, mais ça n'a pas marché.
Et ça n'avait pas marché, oui. Du coup, c'est complet.
Est-ce que c'est trop bien?
C'est peut-être ça.
Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur Arise?
Arise, ça reprend les jeunes jours de Kusanagi, justement.
Et cheveux courts.
Ouais, oui. C'est une autre préquelle.
En fait. Mais voilà, c'est une autre version de la jeunesse de Kusanagi. Et en fait, de la série, elle date de 2014-2015, je crois. Mais en fait, elle surfe un peu sur la vague de cyberpunk actuel avec un peu Psycho Pass ou des choses comme ça, et ça se sent dans les designs et le chara-design et les choses comme ça, mais en fait on reprend des thématiques qui font écho au chi en fait, et le caractère du cyber espace et du cyber monde est un peu plus développé que dans les choses comme Standalone Man Complex ou des choses comme ça, mais c'est tout, c'est que 4 ou 8.
Alors je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la franchise, où on a fait le tour. Alors, il y a une information qui est tombée, je crois, il y a 2 jours ou hier, il y a IG Productions qui a annoncé une nouvelle série de Ghost in the Shell, un nouvel animé. C'est un animé, donc un éventuel long métrage.
C'est co-réalisé par Yamiyama et Shinji Arataki.
Okay.
On connaît pas encore le format.
Donc, on sait pas dans quel univers ça va se passer, non. Si c'est du stand-alone complexe ou pas. Mais donc, en tout cas, vu là, on va parler du film, on pense qu'il y aura certainement pas de suite.
Ça reste rentable
au box-office, mais il y aura une suite en tout cas à cet univers, ouais. On va dire développé, étendu de Ghost in the Shell au Japon.